Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Voilà, nous sommes à notre troisième dimanche de confinement. Un confinement pour l'intérêt général et pour aider nos soignants à faire leur travail dans de bonnes conditions. Ce matin, je vais partager avec vous un témoignage qui vaut toutes les études bibliques qu'on peut faire. C'est un message de vie. Un message à travers un témoignage pratique vécu. C'est un témoignage que j'ai entendu hier qui m'a bouleversé, qui m'a touché, qui m'a plus qu'ému, puisqu'il a touché mon être intérieur. C'est un témoignage issu, le fruit de l'épreuve. Une épreuve vécue et continue à être vie, et continue à l'être en ce moment même avec les conséquences de ce coronavirus. C'est le témoignage d'un pasteur brisé. Un pasteur terrassé, un pasteur qui ne parle plus par sa tête, de sa tête, mais de son cœur, parce qu'il a vécu et il vit toujours cette épreuve. C'est un témoignage que j'ai entendu hier et je ne peux pas faire autrement que de le partager avec vous. C'est le témoignage du pasteur de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, Samuel Peter Schmidt. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous conjure, je vous conseille même, et le mot, je ne suis personne pour conseiller, mais je veux juste interpeller pour ne pas tomber dans le piège du jugement. Oui, la situation doit nous interroger, et c'est de la responsabilité de chaque chrétien de s'interroger. L'épreuve est là pour cela. L'épreuve doit nous arrêter. C'est son rôle. Elle nous arrête pour que nous puissions nous interroger et laisser le Seigneur faire son œuvre. C'est dans l'épreuve que le Seigneur parle le plus. Il nous arrête et il nous parle. Oui, sur le coup, c'est très difficile. Et je pense toutes ces familles qui ont perdu un être cher. Oui, ça doit être très douloureux, très difficile, et nous pensons à eux, que le Seigneur vienne, leur vienne en aide. C'est très difficile. Je pense aussi à ceux qui ont un être cher qui est encore hospitalisé. Je pense à tous ceux qui souffrent. Nous devons penser à eux. Mais nous n'avons pas le droit de juger, de porter un jugement hâtif. Juger, c'est déjà se mettre au niveau de Dieu, en fait devenir comme Dieu. Et rappelons-nous la tentation dans le jardin d'Éden. Nous ne comprenons pas tout. Nous ne maîtrisons rien. Mais Dieu est souverain. Il prend contrôle de toutes choses. Qu'il nous éclaire, qu'il parle à notre cœur. À travers cette épreuve, beaucoup de choses trouvent leurs limites. Où sont les édifices des églises? Où sont les bonnes organisations? Où sont les animations dans les églises? Où ce que j'appelle le marketing spirituel? Où est tout ça? Où sont toutes ces choses? Tout s'effondre devant cette situation que nous vivons actuellement. L'église devient virtuelle, vous rendez compte? On déplace l'église du cadre physique, bâtiment, vers le cadre numérique. Mais tout cela pour dire que l'église, c'est Christ. L'église, c'est Christ qui enseigne dans sa barque. Quelle simplicité, quelle humilité. Que le Seigneur nous révèle cette réalité-là. Que l'église, c'est Christ et Christ en nous. C'est cela la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, chacun de nous, nous avons Christ en nous. On ne sert pas le Christ physique historique, mais le Christ Esprit Saint en nous. C'est pour ça que nous sommes en communion ensemble en Christ. Et c'est cela l'Église avec un E majuscule. Et c'est seulement dans sa grâce, quand il le permet, nous nous réunissons dans des endroits physiques. Mais ce n'est pas l'indispensable. L'Église primitive ne s'affichait pas. Ils vivaient leur foi dans la discrétion. Parce qu'il y avait l'épreuve. Et ils vivaient cette communion, tel point que Dieu agit en eux. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. J'entends ici et là, l'Église doit être une église de maison. Mais ce n'est, on ne fait que déplacer le système. Ça, c'est les conséquences. L'Église est d'abord Christ, et après Dieu peut conduire toute chose selon sa volonté. Il n'y a pas de règle. Ça peut être une église physique, une église dans un édifice, une église dans une maison, une église, je ne sais pas. Mais la base de tout, c'est Christ. C'est l'enseignement, je dirais, un des enseignements que je vis actuellement à travers le confinement et cette communion spirituelle invisible en Christ. Je dis invisible, mais réelle. Alors revenons toujours à l'épreuve indispensable pour avancer avec le Seigneur, pour cheminer vers cette maturité spirituelle tant voulue par notre Dieu. L'épreuve, ça vient du verbe éprouver. Ce n'est pas un malheur. Bien entendu, je partage la douleur. Et moi, le premier, si quelqu'un de ma famille est touché, je serai le plus brisé du monde et j'en souffrirai, je le sais. Mais quand on prend la parole de Dieu, ça doit nous consoler. C'est éprouver, c'est séparer. Éprouver, c'est purifier. Éprouver, c'est comme le feu qui éprouve le métal pour le purifier. Dans les pays d'Afrique, souvent, quand on voyage, on n'ose pas prendre l'eau parce qu'elle peut être contaminée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on la boue, on la chauffe. Voilà l'effet du feu pour la rendre consommable. Voilà le rôle du feu, encore une fois. Et c'est le rôle de l'épreuve. La Bible entière est un cheminement d'épreuve. Mais pas qui nous laisse dans la tristesse. Non, c'est un cheminement d'épreuve qui permet de donner la vie. Parce qu'il faut savoir que l'épreuve, soit elle peut nous donner la vie, soit elle peut nous donner la mort. Si on se contente de subir l'épreuve et la considérer comme quelque chose venant juste pour nous détruire, eh bien ça mène à la mort. Mais si nous sommes dans le plan de Dieu, regardons l'épreuve comme une façon de se métamorphoser, de se transformer, de s'arrêter pour que le Seigneur nous parle, alors là, nous cheminons vers la vie. Quand on prend la Bible, et si je prends l'Ancien Testament, le peuple hébreu est un enseignement d'épreuve. Oui, c'est un enseignement d'épreuve. Ils ont passé 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise. Et ils auraient pu l'atteindre plus vite. Non, le Seigneur a voulu, dans son plan, de faire un détour, les faire passer par le désert. En commençant par les délivrer d'Égypte, la mer Rouge. Cette mer rouge qui s'ouvre, c'est-à-dire ils n'ont rien pu faire, ils n'ont rien demandé. Le Seigneur, notre Créateur, a ouvert cette mer. C'est le signe de la croix. C'est le signe que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes libres, tel le peuple hébreu qui traverse cette mer rouge, ouverte par la puissance de Dieu. Voilà la croix annoncée. Mais avant d'atteindre la terre promise, il y a un autre fleuve qu'il fallait traverser. C'est le Jourdain, le deuxième. Et ce Jourdain reflète notre part de porter notre croix. Notre foi. Il faut porter notre croix pour aller à la terre promise. La terre promise n'est rien d'autre que cette présence divine, Christ lui-même. Nous ne devons pas nous contenter de contempler la croix, telle cette mer rouge qui s'ouvre. Nous sommes appelés à vivre cette métamorphose, cette mort à soi-même, cette délivrance, et porter sa croix, tel le peuple hébreu qui traverse le Jourdain. Oui, l'épreuve, elle nous arrête. L'épreuve, elle permet à Dieu de nous parler. L'épreuve nous transforme. Plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Avant que je vous laisse avec le témoignage de notre frère Samuel Peter Schmitt. Job. Oui, tout le monde connaît l'exemple de Job. Voilà Job, un homme religieux qui aime Dieu, qui le sert, qui le pratique. Nous pouvons être des Job aussi. Nous sommes très stricts dans notre démarche. Nous sommes très religieux. Nous respectons les lois divines. Et pourtant, Dieu a voulu, a permis qu'il passe par l'épreuve, les épreuves les plus terribles, pour qu'à la fin, on entende Job dire « Mon Dieu, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » On passe de la théorie à la pratique. On passe de la religiosité à la communion, à l'union. Je vous invite à lire Job, dès le chapitre 1, et je lis dans le chapitre 1, verset 1, « Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. » Nous pouvons être des chrétiens comme ça, Job. Mais le Seigneur veut, désire, que cette démarche, bonne certes religieuse, s'inscrive dans notre cœur. C'est dans Ésaïe qu'il est prophétique, qu'il est dit que le Seigneur veut que sa loi s'écrive dans notre cœur. Elle devient vivante en nous. Et c'est seulement Christ qui peut la faire vivre en nous dans une communion spirituelle. Conséquence de l'œuvre de la croix, mort et résurrection. Oui, c'est ce Job qui était éprouvé dans sa religiosité pour que cette loi qu'il connaissait, qu'il pratiquait comme une religion, s'écrivent dans son cœur pour qu'il dise « Avant, mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant, mon œil t'a vu. » Je peux prendre un autre exemple. C'est l'exemple de Jonas. Oui, Jonas, encore une fois, cet homme de Dieu, dans une relation, vous voyez, relation, relégaré, religion, dans une relation louable, religion louable avec Dieu. Mais quand le Créateur a fait appel à lui pour le servir, il était incapable de répondre par l'affirmative. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Taris, loin de la face de l'Éternel. Il descendait à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas n'était pas un incroyant. Jonas n'était pas quelqu'un du monde, quelqu'un qui croyait en Dieu, qui servait Dieu. Et pourtant, quand Dieu l'a fait appel à lui, il s'est sauvé. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il faut qu'il y ait une transformation en lui à travers l'épreuve pour qu'il réponde « Oui Seigneur, je vais appliquer ce que tu me demandes. » Et c'est ce qui s'est passé dans le chapitre 2 du livre de Jonas. Je vais vous lire le chapitre 2 en entier. Et vous allez comprendre cette épreuve qui a emmené Jonas à se mettre à genoux pour prier le Seigneur. Chapitre 2 de Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, priait l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. » Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous ces flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé les roseaux et entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter, vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. C'est dans le creux de l'épreuve, c'est dans le creux de l'abîme que Jonas s'est mis à genoux. Il ne pouvait plus maîtriser sa vie. Il ne pouvait plus rien faire. Et les 3 jours dans le ventre du poisson, tel que la parole nous le décrit, il ne ressent rien d'autre que les 3 jours du Seigneur. Sa mort et sa résurrection, c'est les 3 jours passés avant sa résurrection. C'est le message de la croix. La croix doit faire son œuvre en nous, elle nous arrête pour que les œuvres de Dieu commencent. Et c'est dans l'épreuve, dans le brisement, que Jonas s'est mis à genoux, alors et seulement alors, au bout de ce cheminement, notre Créateur donne l'ordre au poisson de cracher, de faire sortir Jonas du ventre de ce poisson, jetant la terre. Et c'est à ce moment-là, et seulement en ce moment-là, c'est annoncé nous pour nous en tant que chrétiens, c'est seulement en ce moment-là que Jonas écoute, entend l'ordre donné par le Seigneur et il répond par l'affirmatif. Et c'est le chapitre 3 qu'elle nous relève. Chapitre 3, et je vais lire juste les 3 premiers versets. Jonas chapitre 3, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et écoutez bien le verset 3. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. L'épreuve est salvatrice. Oui, elle n'est pas humaine. Oui, humainement, parlant moi le premier, je la rejette. Et celui qui la recherche, je pense qu'il a un problème, une aliénation mentale. On ne cherche pas l'épreuve. C'est une erreur de rechercher l'épreuve. C'est du masochisme, le fait de chercher l'épreuve. Mais quand on est dans l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve subie, et non l'épreuve recherchée, je parle de l'épreuve subie. Alors attendons-nous à ce que le Seigneur veut nous dire, parce que certainement, il veut nous faire sortir plus fort, transformer, métamorphoser. Souvent, le Seigneur nous fait arrêter. Et j'aime cet exemple. Souvent, le Seigneur permet qu'on recule pour mieux sauter. Je peux vous parler d'un autre exemple, de celui de l'apôtre Paul. Ce religieux qui servait Dieu sincèrement, qui persécutait l'Église, parce qu'il croyait bien faire. Mais le Seigneur l'a arrêté. Il l'a arrêté, on peut le lire dans les Actes, dans le livre des Actes, chapitre 9. Je vais vous lire versets 1 à 6. Dans les versets 1 à 6. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendait une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» en peu de passages. C'est l'enseignement même de la croix et de l'épreuve. Mais un premier enseignement clair, c'est que l'Église, c'est Christ. Saül persécutait les chrétiens. Mais Jésus, se montrant à lui, en l'arrêtant de cette lumière qu'il aveugle, l'a rendu aveugle, il ne lui a pas demandé « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens ?» Non, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Christ s'identifie aux chrétiens, Christ et l'Église. C'est en tant qu'Église, avec un E majuscule, que Jésus s'adresse à Saül « Pourquoi me persécutes-tu » Saül est arrêté, net, par une lumière divine, l'aveuglant. Il ne voit plus rien. Il ne peut plus se guider lui-même. Il faut le guider. Vous vous rendez compte? C'est cela l'épreuve. Elle nous arrête. Et regardez les deux questions que Saül a posées au Seigneur. Il ne lui a pas dit tout de suite, « Ah, Seigneur, tu m'as touché, maintenant je sais, je crois en toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pas du tout. Le Seigneur l'a arrêté. Et voilà, Saül lui dit, il pose la question dans le verset 5, « Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? » Avant de chercher à faire pour le Seigneur, d'abord, nous devons passer par la connaissance du Seigneur. Mais la connaissance ne peut se faire qu'à travers l'épreuve. Parce qu'elle nous arrête. L'épreuve participe à la connaissance du Seigneur. Saül est arrêté. Et c'est dans l'obscurité, c'est dans l'aveuglement, qu'il est amené à poser la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur l'a rendu disposé à s'ouvrir pour poser la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» Là, il peut se révéler à lui. C'est seulement après que Saül a posé la question, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?»« Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» dans le verset 6. Voilà l'ordre. « Qui es-tu, Seigneur, d'abord ?» Que veux-tu que je fasse? Mais pour que le Seigneur se révèle, qui es-tu Seigneur? L'épreuve trouve son rôle central. Alors ceux qui prétendent que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, que nous sommes épargnés de l'épreuve, que l'épreuve est satanique, je leur dis, faites attention à ce que vous dites, parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée, ses voix ne sont pas nos voix. Il est souverain, il prend contrôle de toutes choses. Il nous parle à travers l'épreuve. Tout l'Ancien Testament est un chemin d'épreuve, mais d'épreuve qui mène à la vie, à la métamorphose. C'est tout le message de la croix de notre Seigneur. Après cette longue introduction, je vais maintenant vous laisser écouter ce témoignage de notre frère alsacien, du pasteur de l'Église, la porte ouverte. Qui a vécu et qui vit encore l'épreuve du coronavirus qui a touché l'Église, la porte ouverte, et qui était touché personnellement, lui et des membres de sa famille. Et en sortant de cette épreuve, il est interviewé par un pasteur canadien. Donc c'est un échange questions-réponses. Le pasteur canadien pose des questions et le frère, le pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, répond. Et je vous invite à écouter ce message parce qu'il est parlant et il vaut plus que toute théologie parce que c'est un témoignage vivant, un témoignage dans la pratique d'un cœur brisé. Je vous retrouve à la fin de ce témoignage.
Bonjour, pasteur Samuel, je suis vraiment honoré de passer ces quelques minutes avec toi. Et je veux commencer en te disant que tu as tout le soutien, toi et toute la famille de l'APO, le soutien de l'Église ici au Canada. On est avec vous à fond dans ce que vous vivez. J'ai été frappé de te voir sur la vidéo que vous avez mise en ligne il y a quelques temps de ça, où tu sortais un peu de la maladie. L'image que j'ai vue, parce qu'on a été ensemble dans un culte à l'Église de Bellevue au Canada il y a quelques années de ça, et de voir, pour l'image que j'ai toujours de pasteur Samuel Peter Schmidt, c'est un général générale pour Dieu. Et là, on t'a vu foudroyé littéralement par la maladie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Tu as eu le coronavirus et comment tu as traversé cette tempête épouvantable?
Oui, alors Luc, peut-être juste avant de commencer à parler, je voudrais d'abord dire que mes pensées vont premièrement vers tous les membres de l'Église qui ont perdu un être cher, ceux qui sont encore dans le coma, ceux qui sont encore intubés. J'ai mon cher ami Gérard qui a été enterré aujourd'hui et il n'est pas possible de commencer à parler sans penser à eux tous et aux membres de notre Église qui peut-être, pour ceux qui sont là, m'entendent pour la première fois depuis 5 semaines. Je suis tombé rapidement malade. Je pensais que c'était une grippe, mais je me dégradais de jour en jour. Et très vite, j'ai dit à mon fils, qui est médecin, je me sens être une petite flamme qui s'éteint. Et je dois dire que je n'aurais jamais pensé que cette maladie est aussi foudroyante. Si vous ne l'avez pas vécu de l'intérieur, c'est difficile à comprendre. Mais l'image que j'ai donnée au médecin, c'est comme si je faisais un bras de fer avec quelqu'un, mais je sens maintenant qu'il a gagné la partie. Et je dois dire que, pour résumer, si je suis là, c'est parce que Dieu est intervenu dans une nuit. Je réserve ce témoignage un peu exclusivement à l'Église d'abord, j'espère que vous le comprendrez, mais ça a été là le changement. Là a été le changement, puisque même en milieu hospitalier, je continue à me dégrader. Et après cette nuit-là, tout a été nouveau, tout a été changé. Aujourd'hui, bien sûr, la maladie est longue aussi. Elle est longue. Ça fait quand même 5 semaines et on met beaucoup de temps à remonter la pente.
Mais tu es pour moi un des grands ambassadeurs de la foi, du miraculeux, de la guérison. Et comment tu as géré, tu te demandais sur la vidéo, tu dis que tu as pleuré, tu n'avais plus de larmes à pleurer, tout ça, l'Église a été éprouvée. Comment tu as géré ça là, dans toutes ces nuits d'hôpital où on a des heures et des heures, toi tu es un homme d'action, tout ça, et là tu es couché, confiné sur ton lit, malade. Comment tu as géré ça dans ton cœur, dans tes pensées?
Alors je vais être très honnête avec toi, Luc. Il y a des moments où j'étais tellement mal que je ne pouvais même plus prier, même plus lire la Bible. Et c'est là que j'ai aussi pris conscience à quel point la foi n'est pas seulement cette théologie où on proclame, on est fort, on va de l'avant. C'est aussi dans la faiblesse qu'elle se manifeste. J'ai vu à ce moment-là, et je dois le dire, lorsque Dieu m'a relevé dans cette fameuse nuit, que ce n'était pas le résultat de cette manifestation d'une foi, comme on l'entend, qui est parfois, pardonnez-moi, mais arrogante. Elle me semble parfois arrogante, elle me semble réduire Dieu à n'être qu'un exécutant. Non, elle est cette foi qui nous rend dépendante de lui, entièrement dépendante. Et si je suis là aujourd'hui, je n'ai pas plus de mérite que mes amis qui sont morts. Ils avaient la même foi que moi. Et voyez-vous, j'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le monde n'était pas digne, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse, et qui pour moi est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre dimension et je me suis rendu compte que le fait de vouloir toujours apporter des réponses apporte des conclusions erronées. J'ai été frappé par ce verset du psaume 71 où il est dit « Beaucoup pensaient que tu m'avais maudit, mais tu as été mon surprotecteur. » Et j'ai été surpris. Vous savez, j'étais à l'hôpital, je pleurais parce que tout d'un coup, j'ai vu émerger toutes sortes de personnes qui ont écrit pourquoi le coronavirus nous a frappés, pourquoi la malédiction est venue sur nous, des vidéos ont été faites. Et c'est pour la première fois que j'ai eu le sentiment d'être le blessé sur le chemin de Jéricho, à côté du plat auquel passe le pharisien et le lévite, sans le considérer, mais juste en cherchant des explications. Ça a été extrêmement éprouvant. Et j'ai dit, Seigneur, mais toi, tu sais. Et c'est pourquoi ma foi n'a pas été ébranlée, loin de là. Il sait.
Amen. Tu as une grande voix d'influence, ton assemblée, toi, ton ministère, tout ça. Une grande voix d'influence dans la francophonie, et je suis persuadé, hors de tout doute, qu'après, quand cette tempête se sera calmée, que tu vas avoir beaucoup d'invitations. Et la prochaine fois que tu vas te retrouver dans une conférence de pasteurs et de leaders chrétiens, quel sera ton premier message? Qu'est-ce que tu diras à tous ceux qui sont des pasteurs, des leaders, des influences dans l'Église francophone? Ce serait quoi ton message?
Il nous faut revenir à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Nous avons été trop souvent présomptueux. Nous parlons de Dieu comme si nous l'avions étudié, comme si nous en avions fait le tour, alors que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. Il me semble que peu de choses, très peu de choses, il nous faut revenir à beaucoup d'humilité.
J'ai entendu ton histoire, tu as grandi dans un foyer chrétien, ton père est un champion de la foi, lui aussi, tout ça. Tu as eu des heures confinées. Quelles seraient pour toi les plus grandes ou la plus grande leçon de Dieu le Père au travers de ce que tu as vécu?
J'ai compris ce que ça veut dire être mené au désert et l'écouter. Vous savez, on a parfois prêché sur des sujets, mais quand on ne les a pas vécus de l'intérieur, on se rend compte à quel point on a parlé de choses qu'on ne comprenait pas. Et le fait qu'on ne les comprenne pas, on en a fait des théories. Et parfois, avec nos discours, nous avons écrasé les gens. Nous les avons culpabilisés. Nous leur avons demandé des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. Nous avons parfois été durs et exigeants. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. Ce que j'ai appris, c'est que Dieu est vraiment un père. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est pas un copain. Je suis tellement malheureux après ce temps de réaliser à quel point on a fait de Dieu juste celui qui bénit, juste celui qui donne, juste celui à qui on s'intéresse parce qu'il donne. On a fait de Dieu finalement notre serviteur. Nous n'avons pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, la sainteté de Dieu a disparu de l'Église. Je ne veux pas généraliser, mais je crois que pour qu'il y ait un réveil, il nous faut revenir à cette humilité. Il nous faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il nous faut reconnaître que nous sommes dépendants de lui. Vous savez, Jésus a dit, heureux les pauvres d'esprit. En d'autres termes, heureux ceux qui se savent dépendants de lui. Heureux ceux qui savent qu'ils ne savent rien. Heureux ceux qui savent que chaque jour, ils ont besoin de lui. Heureux ceux qui ne sont pas assis dans leur certitude et sur leur trône de savoir. Heureux sont-ils, car le royaume de Dieu est à eux. C'est à eux qu'il est. Et c'est ce que je suis. Ça m'explose à la figure. C'est pour ça que je suis tellement bouleversé, ému. Je voudrais vous parler sans émotion, mais l'Esprit de Dieu me travaille tellement que j'en suis bouleversé.
Je ne veux pas être intrusif, mais on a vu Jonathan, ton fils, qui en passant, je ne connaissais pas, je connais Benjamin, j'ai rencontré Benjamin en Suisse, je ne connaissais pas Jonathan, qui m'a beaucoup impressionné par son attitude et sa maturité dans ce qu'il a fait avec les médias et tout ça.
Quand tu es avec ta famille là à la maison, avec tes fils, tout ça, c'est quoi le message que tu leur communiques? Qu'est-ce que tu leur dis? L'Église a été attaquée, ta santé est attaquée, des membres de ta famille ont été attaqués, il y a eu des décès. Avec tes enfants, qu'est-ce que tu, en tant que père, tu dis quoi?
Je nous rappelle tout ce que Dieu a fait pour nous. Je leur dis, et ils le savent, par quelles épreuves nous avons déjà passé. Nous avons été malmenés parce que nous avons été attaqués dans les années 95. Les médias nous ont malmenés dans tout le pays. Et puis Dieu nous en a sortis. Il y a ce verset qui dit, il compte les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu. Vous savez, dans ces moments-là, vous rappelez des bienfaits de Dieu. Et j'aimerais le dire à tous ceux qui sont dans l'épreuve, vous rappelez de ces bienfaits. Vous donnez une force extraordinaire. Je me suis rappelé que quand ma mère était malade, elle devait mourir. C'est Dieu qui l'a guérie. Je me suis rappelé que lorsque nous avons été mis sous pression avec un contrôle fiscal terrible qui visait qu'à nous détruire dans les années 2000, le Seigneur nous a sauvés. Je veux me rappeler que lorsque nous avons commencé la construction et que toute notre construction a été arrêtée pendant 3 ans, 3 ans, Luc. Luc, c'était terrible parce que tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce qu'il... Et tout d'un coup, le miracle a eu lieu, ça a repris. Et quand mon fils a été en psychiatrie, en Benjamin, que nous avons passé une année des plus noires, que personne ne peut imaginer, si c'est ceux qui ont des enfants atteints de cette manière-là. Il nous en a sorti soudain, en une nuit, mon fils a été guéri. Et ces choses-là, nous les cultivons, nous nous en rappelons, nous les partageons. Lorsque je parle avec mon père, il nous partage tout ce qu'il a vécu. Et nous nourrissons notre foi de tout ce que Dieu a fait. Et nous n'oublions pas qu'il est souverain.
Le premier dimanche où tu vas monter sur l'estrade à la porte ouverte et où toute l'assemblée sera de retour et tout le monde sera là pour la première fois, c'est quoi ton message?
Tout d'abord, la première fois que nous allons nous réunir, c'est pour rendre un hommage à tous nos frères et sœurs qui sont partis. Et mon message sera, il nous faut réapprendre à connaître Dieu. Il nous faut le découvrir. Il nous faut le découvrir dans une toute autre dimension. Il nous faut revenir à l'humilité. Je bénis Dieu pour ce confinement. L'Église est obligée de revenir à la simplicité. Non pas que les estrades et la lumière ne soient pas nécessaires, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais nous revenons à ce Christ qui enseignait assis dans une barque au bord du lac de Galilée. Il n'y a plus de fioritures. Toutes les fioritures tombent. Tout ce qui est inutile tombe. Il n'y a plus d'évangile spectacle. Il y a juste l'évangile. Et que Dieu soit béni pour ces temps de confinement.
L'Église est en ce moment, elle n'est que sur Internet, tout ça. En tout cas, l'Église visible, elle n'est plus dans la dimension qu'elle était il y a quelques semaines. Je parle avec beaucoup de pasteurs, de leaders chrétiens, et je serais très intéressé de t'entendre, pasteur Samuel, sur, selon toi, quel est le futur de l'Église après cette crise?
Alors, j'ai entendu énormément de choses depuis cette crise. J'étais impressionné de voir le nombre de prophètes qui grandissent comme les champignons. Je regrette juste qu'il n'ait pas été là avant. Je regrette juste de ne pas avoir entendu des voix prophétiques claires nous prévenir. Aujourd'hui, il y a un tas de prophètes qui font des commentaires, mais qui ne prophétisent rien. J'en suis désolé. Je crois aussi que là, la crainte de Dieu va revenir pour que nous ne parlions pas en son nom à la légère. Et j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, ne vous fiez pas à tout ce que vous entendez. Faites attention à tout ce qui est dit. Je crois la chose suivante. Je ne crois pas que c'est la fin. Je ne crois pas que c'est de l'apocalypse. Vous savez, mon père a passé la Deuxième Guerre mondiale et il me disait, tout le monde disait que Hitler était l'antéchrist. Dans toutes les églises, on prêchait que c'est la fin. Et puis la guerre s'est terminée. Et puis la vie a continué. Et j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, la vie va continuer. La vie va continuer. Parce qu'il y a un grand nombre d'hommes et de femmes qui ne sont pas encore sauvés. C'est pour ça que la vie doit continuer. C'est pour ça qu'elle doit continuer. C'est un signe de la fin des temps, mais ce n'est pas encore la fin des temps. Je crois qu'après ce que nous avons vécu, après que les économies aient été mises à genoux, après que toutes nos assurances, nos certitudes étaient mises à genoux, beaucoup d'hommes et de femmes vont venir, je crois, à un réel réveil.
Amen.
Un réel réveil. Je crois que énormément d'hommes et de femmes qui se posent aujourd'hui des questions existentielles, qui se rendent compte que tout ce dans quoi ils ont investi peut s'effondrer en un jour, vont chercher ce qui demeure. Et je m'adresse là aussi aux chrétiens. Tant de chrétiens qui ont investi pour la terre. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Arrêtez, arrêtez de chercher les choses de la terre. Arrêtez de mettre votre priorité dans ce qui va s'effondrer un jour et dans ce que vous devrez laisser. Cherchez le royaume. Investissez dans le royaume. Et toutes ces choses vous seront rendues par-dessus tout. Cherchez Dieu.
Pasteur Samuel Peter Schmidt, merci d'avoir pris le temps. Tu es encore confiné, malade encore. Mais merci d'avoir pris le temps et on veut te dire qu'on est avec toi, la famille de Dieu, on est avec toi. Et je veux déclarer sur ta vie, ta famille, sur l'Église, la porte ouverte, je veux déclarer le ciel ouvert, la bénédiction, et Dieu va tourner cette situation à votre avantage. Il est capable de le faire et nous croyons qu'il va le faire. Merci beaucoup, ça a été un plaisir, un honneur de pouvoir passer ces quelques minutes avec toi. Sois béni.
Merci Luc pour votre invitation. Merci. Gloire à Dieu.
Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, le témoignage bouleversant de notre frère, du pasteur Samuel Peter Schmidt. Je pense que ça... Ce n'est même pas allé d'aller... C'est inutile d'aller dans les commentaires que chacun reçoive ce témoignage comme une remise en question. Une remise en question personnelle. Une remise en question de l'Église. Ce message m'a parlé personnellement. Où sont nos priorités? Voyez, cette période de confinement permet de s'interroger, de se poser des questions, de s'arrêter de se poser des questions. Quelle est la raison de notre existence? Pourquoi sommes-nous là? Quelles sont nos priorités? Voilà l'épreuve que j'appelle l'épreuve qui donne la vie, telle une maman qui donne naissance à son bébé. C'est dans la souffrance qu'elle donne la vie. C'est en se séparant de la souffrance de son bébé qu'elle lui permet d'accéder à la vie. Et sa souffrance d'avant l'accouchement, elle devient une joie après la naissance, après l'arrivée de la vie. Que ces paroles, que ce témoignage nous parle, nous transforme, nous arrête pour que le Seigneur puisse nous parler. J'aime cet ordre Watchman Nee, cet ordre des choses que Watchman Nee exprime. Il dit, le chrétien est appelé à s'asseoir d'abord, à se reposer avant de se lever et de marcher. Nous terminons notre échange de ce matin par une prière. Et il n'y a rien de tel que de partager avec vous la prière de notre frère Samuel Peter Schmidt, le pasteur de l'église Porte Ouverte de Mulhouse. Il a terminé son témoignage par une prière parce qu'on l'a invité à prier. Eh bien, notre rencontre de ce matin se termine par cette prière. Et je laisse le frère Samuel Peter Schmidt partager avec nous cette prière riche de sens parce qu'elle parle à notre être intérieur. Il est le fruit d'un brisement, d'une épreuve. À très bientôt, mes amis, à très bientôt, chers frères et sœurs, écoutons la prière du pasteur Samuel Peter Schmidt.
Avant de prier, si vous me permettez de dire quelque chose.
Bien sûr.
Nous avons, lorsque lorsque nos frères algériens ont eu leurs églises fermées, on sait un mouvement de manifestation avec des frères comme Saïd Oujibou et d'autres. Nous étions devant les ambassades et aucun de nous n'imaginait que quelques temps plus tard, nous serions nous aussi sans église, nous aussi confinés. Et je pense à eux aujourd'hui. Je pense à tous nos frères et sœurs persécutés. Je pense à ceux de qui on a souvent parlé, mais sans comprendre ce qu'ils vivaient. Aujourd'hui, nous sommes encore en relation avec nos technologies, mais dans bien des pays, ils n'ont pas la grâce. Alors j'aimerais vous inviter tous à prier pour eux également maintenant.
Amen. Amen.
Père, de tout cœur, je pense à tous mes frères et sœurs en Algérie, à tous ceux qui ont été privés d'église, mais pas parce qu'un virus les a frappés, mais parce que, Seigneur, une politique, une forme de dictature les a frappés. Tu vois, mes amis, nos frères en Chine, dont même pendant cette crise, les églises ont été détruites. Seigneur, nous nous joignons à eux, nous prions pour eux, nous pensons à eux. Je te remercie de ce que tu étends ta main, de ce que tu leur fais grâce. Merci pour l'exemple qu'ils sont, exemple de courage. Merci, Seigneur, parce que au travers de ce que nous vivons aujourd'hui en Occident, nous commençons à prendre la mesure de ce qu'ils vivent. Nous avons là aussi parlé de choses que nous ne comprenions pas. Merci de nous les enseigner. Seigneur, nous apprenons aussi par la souffrance et nous te bénissons. Je veux prier pour tous nos amis qui sont avec nous maintenant, ceux et celles qui sont malades, celles et ceux qui ont été frappés par cette maladie ou qui ont perdu un être cher. Seigneur, je prie, console-les. Et je te demande de rappeler à chacun d'entre nous que ceux qui sont partis nous ont juste devancés. D'ailleurs, je veux me rappeler cette parole de Billy Graham qui disait « Quand on vous dira que je suis mort, ne le croyez pas. Je n'ai jamais été aussi vivant que maintenant, j'ai juste déménagé. » J'aimerais, Seigneur, eh bien, laisser cette parole à ceux qui ont perdu des êtres chers. Les tribulations du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Que chacun et chacune soit fortifié à la pensée de savoir que la gloire à venir effacera tout le souvenir des peines que nous pouvons avoir aujourd'hui. Amen.
Amen. Amen.
Amen. Bon dimanche à toutes et à tous.